Nicole Gibeault.
Une chronique judiciaire.
Madame la juge.
On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
La rencontre, Gibeault-Trisac.
Nicole, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bon, alors, les sujets, je les ai, là. Je les ai pas loin. Je les ai. Oh boy. Hey, ça, c'est pas drôle, hein? Cette femme, Rebecca Harry, qui a été battue à mort par son conjoint, c'est dans la filière des féminicides.
Ben, absolument. Puis, juste avoir, malheureusement, la corpulence de cet homme-là versus la corpulence de, tu sais, c'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un. Moi, ce genre de personne qui bat de cette façon-là sa conjointe, c'est inconcevable. Je veux dire, absolument inconcevable de penser que on peut faire quelque chose du genre à un être humain. Mmh. Alors, et sa famille, avec raison, reste inconsolable. Mais on va le dire, là, il faut vraiment être lâche pour s'en prendre à sa conjointe comme ça, qui la suppliait d'arrêter. Elle a aucune chance, cette femme-là, mais aucune chance avec le gabarit de cet homme-là. C'est impossible. Alors, puis elle pouvait même pas se défendre. C'est affreux pour la famille. Puis, évidemment, on s'entend là, que même si c'est un événement difficile, on a réduit l'accusation. Ça, souvent, les gens sont outrés. On réduit l'accusation et c'est peut-être pas toujours un bon message. Ça, j'en conviens. C'est tout à fait exact. Et je pense que les gens qui s'occupent des personnes qui sont victimes de violences conjugales vont le dire haut et fort, que réduire des accusations de meurtre deuxième degré à homicide involontaire, dans un cas comme ça, c'est peut-être... Sauf
qui,
que...
Excuse-moi, Nicole, mais qui a décidé de réduire les accusations?
C'est la couronne, je m'en allais l'expliquer.
OK.
C'est que la couronne décide, ben, évidemment, là, avec la preuve, puis on ne sait pas pourquoi exactement. On n'est pas dans les chaussures de la couronne au moment où ils font cette étude et cette analyse-là pour décider d'accepter un plaidoyer de culpabilité d'une accusation réduite à homicide involontaire. Le problème, c'est qu'homicide involontaire, c'est de zéro, une sentence suspendue à prison à vie, tandis que meurtre deuxième degré, c'est si il est trouvé coupable, il est en dedans pour la vie, mais avec possibilité de libération conditionnelle entre 10 et 25. Possiblement qu'on aurait eu le même montant qui aurait été suggéré, soit 14 ans dans les circonstances, si je ne m'abuse, je pense que c'est 14 ans. Et ceci dit, ça pourrait ne pas changer au niveau de ce qu'il devait passer en prison. Mais sa peine aurait été une peine à vie, donc vérifiée et toute sa vie par les libérations conditionnelles. C'est pas le cas. Et la couronne a dit que c'est parce que ils n'avaient pas la preuve, selon eux, hors de tout doute raisonnable, que monsieur avait certainement l'intention, là, je lis ce qui est écrit dans les journaux, de causer des lésions. L'intention de causer des lésions, évidemment, là, à la batte comme ça, là, mais pas l'intention de lui causer la mort. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites dans ce procès-là pour l'avoir suivi. Je me souviens pas de tous les détails. Il y avait, je pense, eu un arrêt entre, malheureusement, les épisodes. Est-ce que tout ça a fait qu'on aurait risqué d'avoir quand même un homicide involontaire? Parce que si on part de meurtre au deuxième degré, puis que devant jury, on peut pas en faire la preuve sur l'intention de tuer, clair.
OK, mais attends, je t'arrête, Nicole. Je vais juste lire un paragraphe, OK? Brandon McIntyre, là, colosse de 34 ans, là, un prix Nobel, a lancé la jeune femme contre une bassinette, s'était mis à la cogner au visage, à lui piétiner les côtes, alors qu'elle tentait tant bien que mal de se protéger en position fœtale.
C'est épouvantable. Et
là, on réduit les accusations en sachant ça, et devant son ex-conjointe qui a essayé d'intervenir, mais qui avait peur de lui aussi.
Tout à fait.
C'est
ça l'explication qu'on a, Benoît.
Ouais.
Et tu sais, il n'y a pas d'autre chose. Ça nous brise le cœur de voir ça brise le cœur à la famille Est-ce qu'il y a un point extrêmement pointu et juridique? Moi, je suis là pour ça, là, avec toi. C'est possible. Maintenant, c'est possible aussi qu'il y a d'autres raisons, les délais, les ci, les ça. Il y a plein d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte. On ne le sait pas. Mais quand tu fais la description comme tu le fais, ben c'est le genre de personne qu'on veut jeter en dedans d'une cage et ne plus jamais laisser sortir. Et on comprend ça. Maintenant, ça, c'est la réaction humaine, la réaction d'un procureur de la couronne et d'un tribunal et d'un jury qui va être dirigé par un juge et non pas jamais par strictement les émotions, même si évidemment ça nous envahit.
Oui, mais c'est pas un jeu d'échecs, là. C'est pas une stratégie.
C'est pas un jeu d'échecs.
Rebecca Harry est morte, là.
Oui.
Elle a mangé la volée de sa vie, puis elle en est morte. Et
vrai.
Ce gars-là, on réduit ses accusations pour toutes sortes de raisons autres que la justice.
On réduit des accusations pour toutes sortes de raisons, virgule, qu'on ne connaît pas en détail. Et c'est tout. C'est comme ça. C'est très malheureux. Mais la couronne ne s'expliquera pas autre que de dire ce qu'on vient de dire.
Tu trouves pas que dans ces circonstances-là, la couronne devrait s'expliquer? Au moins par respect pour la victime et la famille?
Ben, je suis entièrement d'accord. Mais ils vont te dire que la phrase qu'ils ont donnée pour les accusations réduites est pertinente et fort. Et là, pour eux, est très forte. Ils n'auraient pas pu. La preuve démontrait que monsieur avait pas l'intention de la tuer, mais de causer des lésions corporelles.
Il piétine les côtes.
Point final.
c'est
ça qu'on dit, là. Je peux pas l'inventer.
Je comprends. Je comprends, mais j'imagine la famille de Rebecca Harry.
Ben, c'est pour ça que je dis que c'est inimaginable pour eux d'entendre ceci. Puis de voir que on est allé directement à un homicide involontaire pour avoir battu à ce point-là. Puis leur fille, c'est inconcevable. Et souvent, c'est pour ça que on comprend que les mouvements pour les victimes, et incluant moi, toi et tout le monde, on est outrés de voir quand on baisse. Mais maintenant, est-ce qu'on aurait échappé ce dossier-là en justice? Je ne pense pas, puis je vais être bien honnête, parce qu'au pire aller, on serait tombé quand même à un homicide involontaire, probablement, si on avait fait le procès. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, il devrait écoper 14 ans d'incarcération pour cet homicide involontaire, parce que c'est pas prison à vie, là, c'est juste quand on parle de pénitencier, c'est 14 ans, c'est pas à vie, pouvoir être libéré dans 14 ans.
Je comprends pas le mot involontaire. Qui suit. Tu sais, dans ce cas-là, je comprends pas involontaire. Le gars, là, c'est un colosse, il a 34 ans, il vache sur une petite femme, et il piétine les côtes, il la frappe au visage, il la jette contre une bête, et ça serait involontaire. Vraiment, je veux pas faire de la démagogie.
C'est parce que l'involontaire là-dedans, là, ce n'est pas la définition dans notre tête.
Non, je le sais. Il l'avait pas prévu le matin, en se levant aujourd'hui.
C'est pas la définition d'involontaire en vertu du code criminel, mais involontaire dans la tête de tout le monde. T'sais. Puis je me souviens d'être assisté à un colloque où des gens avaient dit, écoutez, là, moi, je viens d'entendre. Puis tout le monde sur le panel en avant disait, après combien de coups là, la personne avait été tuée? Avec 37 coups de couteau. C'est quand que ça devient volontaire? Puis tout le monde dans la salle, puis c'était un colloque de juges, là. Alors tout le monde dans la salle s'était mis à hausser les épaules en disant, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Excepté que la définition d'involontaire, c'est vraiment entre les deux oreilles et dire, ben, on a voulu la battre, mais on n'a pas voulu la tuer. C'est ça. C'est ça, l'involontaire.
Ouais,
on a
involontairement
tué quelqu'un qu'on a battu à mort.
Ben oui, ça tombe.
D'être logique, là, mais c'est pas ce que les gens veulent entendre. Et j'en conviens que c'est très difficile à accepter.
Et l'autre jeune chauffeur, là, un autre qui a écopé de 5 ans de prison.
Oui, puis lui, il avait sa blonde, puis un ami qui était dans l'auto, puis regarde là, si c'est pas clair comme de l'eau de roche, il conduisait sous l'effet de l'alcool et du cannabis, ce qui est très, très malheureux, c'est que encore aujourd'hui, apparemment, selon le rapport présententiel, il a des regrets, bien évidemment, il a des regrets, il a perdu sa copine, etc., mais il considère pas que sa consommation a eu un impact sur sa conduite automobile.
Wow.
Indique son rapport présententiel. Parce que 4 bières puis du cannabis, pour lui, ça doit pas tant l'affecter que ça. Il y a d'autres choses, c'est un accident, etc., puis c'est sûr qu'il voulait pas. Sauf qu'on On conduisait un véhicule automobile dont les pneus étaient usés puis qui était même pas apte à circuler sur la route. Et ça, on voit ça souvent. Ils n'ont pas de sous pour faire réparer leur véhicule. Ils ont pas, mais ils ont des sous pour prendre 4 bières et du cannabis. Mmh. Puis après ça, on prend la route. Après ça, on dit, ben garde, c'est parce que je regrette beaucoup, mais c'est parce que la vie a été fauchée parce que on a pris un véhicule en ayant bière, cannabis, on s'entend-tu que c'est pas un cocktail idéal pour conduire? C'est zéro. Pourquoi on conduit? Oh ben on n'est pas affecté, puis on est capable, puis on est invincible, puis ça ne nous arrivera pas à nous autres. Puis là, l'été commence, ça va être terrible. Et moi, je me souviens quand je retournais à l'automne siéger, c'est l'enfer, les causes qu'avait eues pendant l'été, avec des conduites dangereuses, conduites de facultés affaiblies, causant la mort, lésions, etc. C'est l'enfer. C'est malheureusement, il fait beau, il fait chaud, on boit, on prend du cannabis, let's go.
Mais tu sais, Nicole, là, encore une fois, le type, le chauffeur, comment il s'appelle? Yannick Mathieu, c'est ça?
Oui, oui.
Il dit, ma blonde est morte.
Ouais.
Je vais rentrer en dedans, je suis dans merde. Moi, mon nombril, l'égocentrique, l'enfant roi, moi. Pas elle, elle vient de perdre la vie. Elle vient de perdre la vie à cause de moi. Mais là, il pense à lui d'abord et avant tout. Et ça, c'est un problème.
C'est dans presque tous les cas, tu le soulèves à chaque fois. Le gars qui est parti, puis il s'est occupé de ses pneus ou tu sais pas quoi.
Ouais,
là,
ouais.
L'autre qui... C'est tout le temps le cas. C'est malheureusement toujours le cas. Mais je dois dire que, regarde, on y a quand même, mais je pense pas qu'il y avait des antécédents judiciaires. Et lui donner une sentence, on lui a donné une sentence quand même faible, 5 ans. Je sais que quand on enlève la vie, on devrait encore une fois les jeter en arrière, jeter la clé, blablabla. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis 5 ans pour une personne qui est décédée, alors qu'il était nettement responsable, je dois dire que c'est très clair, selon la décision, là, que c'est pour ses raisons. Sa responsabilité criminelle est totale. Alors, bye-bye, 5 ans pour un jeune de 19 ans. Puis c'est ça, il va avoir une interdiction de conduire. Je me souviens plus combien on lui a donné. Là, je sais même pas si on l'a cité, l'interdiction de conduire, dans l'article. Non, je pense pas, je le vois pas.
Avant qu'on se quitte, Nicole, un mot sur Alain Carrier, déclaré coupable d'avoir agressé sexuellement des enfants entre 1998 et 2006 en Estrie.
Oui, il a été trouvé coupable. Très important, ça fait très longtemps, le message envoyé, puis j'ai trouvé que la décision du juge Meredith dans ce dossier-là de la Cour du Québec, elle est très importante. Il y a des mots, ça a l'air peut-être bénin pour peut-être bien des gens, mais il a dit, ces victimes-là, quand ils ont témoigné, ils n'étaient pas des victimes parfaites, parce que ça fait très, très, très longtemps, là. C'était pas des victimes parfaites. C'était pas des gens qui se souvenaient de tous les détails. C'est des gens que j'ai cru pour telle raison. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que je devais m'attacher à des virgules puis des points-virgules. Il a pris des photos des parties intimes, etc. Il nie. Il a toujours nié. Le juge a analysé tout son témoignage. Il a trouvé des contradictions. Il a trouvé ci, il a trouvé ça. Puis il a dit non, je vous crois pas du tout. C'est hors de tout doute raisonnable. Même si on avait tenté, comme on entend souvent, de dire que les victimes ne sont pas parfaites, qu'il y a des contradictions, etc. Ben pas dans ce cas-ci. Le tribunal l'a déclaré coupable sans aucun problème. Puis je pense que c'est un message de lancer que, garde, même si ça fait tant d'années, on va se retrouver dans 2 jours, ils vont être de retour à court pour avoir trouvé une date pour les représentations sur sentence. J'ai hâte de voir parce qu'on parle d'enfants, on parle de mineurs. Puis c'est suite à ces jeunes mineurs, il y avait des mineurs, là, ils se sont réveillés un peu l'esprit parce que ça... Tu sais, ça mijote, là, puis à un moment donné, ils ont dit, non, moi, j'ai été victime de quelque chose. Puis le juge l'a cru. C'est qu'ils n'ont pas dénoncé tout de suite. Puis c'est correct aussi, parce qu'ils étaient tous jeunes. Puis ils se sont, tu sais...
On va pas blâmer les victimes, là. C'est ça.
Mais il y en a plusieurs qui, sans les blâmer, on dit qu'évidemment, la mémoire de faculté qui oublie, puis il y avait des détails là-dedans. Même là-dedans, il y a des détails qui ont été oubliés. Mais que le tribunal a dit, non, c'est pas ça la base. C'est vraiment la question de la crédibilité dans l'ensemble de la preuve. Et on n'a pas cru lui, puis on l'a dit.
Très bien. On se laisse là-dessus. Nicole, merci. À demain.
À demain. Au revoir.